Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Olivier Véran.
Bonjour Apolline Dabert.
Vous êtes le porte-parole du gouvernement. Et alors, on a vraiment besoin d'un porte-parole pour essayer de comprendre les explications de texte des déclarations d'Emmanuel Macron de ces dernières 24 heures. Je voudrais d'abord qu'on parle de l'énergie. Olivier Véran, Emmanuel Macron a parlé hier des profiteurs de crise. Écoutez.
J'ai entendu l'inquiétude et l'angoisse. Elle est légitime. J'en ai, comme vous, assez. On est des gens qui, sur la base de la crise, fassent des profits excessifs. Donc, la crise, elle touche tout le monde. Il faut à la fin, de toute façon, qu'on absorbe cette hausse des prix, parce qu'on ne produit pas cette énergie. Mais il n'est pas normal qu'il y ait des gens qui fassent des très gros profits dans un moment où on utilise quand même l'argent du contribuable pour aider les plus petits à résister. Donc, on va remettre un peu tout le monde d'équerre dans cette période, avec cette mesure et cet effort qu'on va demander.
Il en a assez. Le président, qui sont les profiteurs de crise?
On peut faire un exemple bien concret. Vous prenez un boulanger. Le boulanger, quand il est chez lui à la maison, il est citoyen français. Le coût de l'énergie, il l'a pas vraiment, en tout cas très peu senti passer, si je puis dire, puisque l'année dernière, on a plafonné la hausse de l'électricité à 4%. Et cette année, avec le bouclier tarifaire, il payera une augmentation de 15%, ce qui est très loin de l'augmentation réelle de son tarif.
Ça, c'est à la maison.
Ça, c'est à la maison. Et quand il revêt ses habits de boulanger, eh bien, il y a plusieurs situations. S'il a eu la chance de signer un contrat de tarif d'électricité l'année dernière, par exemple, eh bien, il n'a pas d'augmentation du coût de l'électricité. Lui, il est à l'abri.
Pendant au moins deux ou trois ans.
Si, par contre, il était contraint de renouveler son contrat d'électricité il y a deux ou trois mois, eh bien, il a signé un contrat qui l'engage pour deux ou trois ans avec une hausse du coût qui peut faire du x5 ou du x6. Et donc, lui, il s'en sort pas. Et ce que dit le président de la République, ce que nous constatons, c'est que cet été, l'électricité, elle coûtait 5 fois plus cher que ce qu'elle coûte aujourd'hui. Donc il n'est pas normal qu'un artisan, qu'un boulanger, qu'une TPE, qu'un boucher paye pendant 2 ans une électricité au tarif auquel il était temporairement il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Et donc ce qu'il exige, ce qu'il demande, et ce qui sera d'ailleurs fera l'objet d'une réunion avec Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher aujourd'hui à Bercy avec les fournisseurs d'énergie, c'est que les fournisseurs d'énergie qui ont signé un contrat qui engage des petits artisans, des TPE, pendant 2 ou 3 ans avec des tarifs exorbitants par rapport aux tarifs constatés aujourd'hui, renégocient sans frais ces contrats.
Sauf que eux, ce qu'ils répondent, ce que donc le président a appelé les profiteurs de cette crise, donc les fournisseurs, eux, ils répondent qu'ils ne sont que fournisseurs et pas producteurs. En gros, il y a 3 entités. Il y a effectivement le boulanger, il y a le fournisseur et il y a le producteur d'électricité. Et le fournisseur, il dit, moi, j'ai acheté mon électricité à un producteur qui me l'a vendu à ce prix-là. Donc si aujourd'hui, le boulanger ne lui paye pas, il va devoir quand même lui payer le producteur. Est-ce que vous ne vous trompez pas de cible ?
On ne se trompe pas de cible. Ce qu'on veut, c'est que ce soit simple. Ce que le président de la République il demande depuis des mois, et il y est très attentif, c'est qu'à des problèmes qui en apparence sont simples, en tout cas pour les gens, et qui sont réels et du quotidien, l'État apporte des réponses qui soient simples. C'est-à-dire que ce n'est pas au boulanger de se débrouiller avec une filière, avec une forêt d'interlocuteurs.
Mais le fournisseur lui-même, alors je donne l'exemple de celui que j'ai reçu ce matin sur RMC, il s'appelle Julien Tchernia, il est président et cofondateur d'Equateur, d'Equateur qui fournit de l'électricité à des particuliers et à des professionnels. Lui, il dit, si les contrats que j'ai signés ne sont pas payés, je mets la clé sous la porte. Donc ce ne sera pas le boulanger, on va remonter d'un cran.
Je vous l'ai dit à Apolline de Malherbe, les fournisseurs d'énergie sont reçus aujourd'hui à Bercy, qui est la maison mère de l'économie française, pour que justement tout cela puisse être discuté. Ce que je vous dis, ce que dit le président, c'est de savoir qui du producteur ou du fournisseur doit faire un effort, en tout cas doit remettre les choses d'équerre, ce n'est pas le problème du boulanger. C'est le problème de l'État et du gouvernement et des acteurs économiques eux-mêmes. Et donc, on est là pour les accompagner, discuter, négocier, concerter. Le boulanger, lui, ce qu'il veut, c'est être sûr qu'il pourra vendre sa baguette au même prix aujourd'hui, dans 1 mois, dans 2 mois. Et ce que veulent les Français, c'est la certitude que les boulangers ne mettront pas la clé sous la porte. Dans les petits villages, c'est parfois les derniers commerces ouverts parce que l'énergie aurait coûté trop cher il y a quelques mois ou quelques semaines et que les boulangers seraient engagés dans des contrats qu'ils ne peuvent pas tenir.
Donc, ce matin, ceux qui nous écoutent, qui ont eu des contrats d'électricité trop chers, peuvent donc être rassurés en effet, que ce soit le fournisseur ou le producteur, vous trouverez le coupable et vous ferez baisser la facture.
Pas une question de coupable, c'est une question de
responsable.
Responsable.
Les mots étaient quand même très durs, parce que déraisonnable, abusif, aberrant, contrat excessif, profiteur, je peux me permettre de dire coupable.
Apolline de Malherbe, imaginez qu'il n'y ait pas un bouclier tarifaire qui protège les Français.
Ça, c'était les mots du président.
Imaginez que comme citoyenne, en rentrant chez vous, vous découvriez que vous êtes engagé pendant deux ans avec votre fournisseur d'énergie pour payer un prix de l'énergie 5 fois ou 6 fois au prix du marché actuel. Vous seriez la première à dire c'est inacceptable, c'est inconcevable, je veux renégocier cela. Il n'y a pas de raison que les entreprises ne puissent pas le faire. Et ça atteste aussi, ça illustre, s'il y avait besoin de le refaire, que l'État fait un geste absolument considérable pour protéger les ménages qui, eux, sont à l'abri de ces hausses spectaculaire du prix de l'énergie.
Et les modalités, elles seront donc décidées tout à l'heure à Bercy. Il y a un mot quand même dans la déclaration qu'on a entendue d'Emmanuel Macron. Il a parlé des très gros profits dans cette colère, dans ce j'en ai assez. Pourquoi vous ne les taxez pas, les
Mais
très gros
profits? Mais on en taxe, Apolline de Malherbe. Dans le dernier budget, vous savez, on a plus parlé de la manière dont on l'a adopté du 49.3 que ce qu'il y avait dedans. C'est dommage. Parce que dans le budget, on baissait les impôts, on supprimait la redevance, on supprimait des impôts de production pour les entreprises et on prélevait des très gros profits qui avaient été faits, notamment par des producteurs d'énergie dans la période. Et ça se compte en milliards d'euros, ce qui nous a permis de financer pour bonne part le fameux bouclier tarifaire qui protège les Français d'une hausse du coût de l'énergie.
Il s'est aussi agacé, le président, sur l'administration et ses dédales. Beaucoup de nos artisans, de nos TPE ont autre chose à faire que d'aller chercher dans des sites internet des circulaires absolument illisibles ou des tableaux incompréhensibles. Là encore, il cible qui? Là, pour le coup, il cible son administration.
C'est le concept du jardin à la française. C'est-à-dire qu'on veut faire parfois au plus juste. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez des boulangers qui n'ont pas eu de hausse du coût de l'énergie parce qu'ils avaient un contrat qui était plus ancien. Des boulangers qui font face à une hausse qu'ils ne peuvent pas soutenir. Des boulangers qui font face à une hausse qui, elle, est soutenable. Et donc, pour aller identifier qui fait partie de telle ou telle catégorie, en fait, on a cette tendance à demander au boulanger de démontrer lui-même et d'entamer ses démarches. Je prends l'exemple du boulanger, je pourrais prendre d'autres
artisans. Non, mais restons sur le boulanger en ce moment.
Mais le boulanger, il se lève à 3 heures. Lui, il est déjà debout depuis 5 heures, hein. Ouais, ça fait 5 heures qu'il est debout, qu'il prépare sa pâte, son pain, etc. Il va ouvrir son commerce. Il va le tenir toute la journée. On peut pas lui demander d'entamer des démarches administratives complexes au milieu de cette journée de travail qui est extrêmement dense parce qu'il n'y arrivera pas. Et donc, ça veut dire que c'est à nous de nous adapter. Et donc, parfois, eh bien, oui.
Donc, il en a assez des couloirs de l'administration qui sont compliqués. Il en a assez des numéros verts. Alors ça, Emmanuel Macron qui hier nous a dit qu'il avait pris son téléphone, qu'il avait appelé, qu'il s'était rendu compte que les numéros verts ne marchaient pas. Vous savez combien de numéros verts vous avez lancé, vous, Olivier Véran?
Quelques-uns, je pense.
Quelques-uns. On va quand même refaire un début de liste parce que j'ai pas été totalement exhaustive. Vous avez lancé, Olivier Véran, un numéro vert canicule.
Il existe depuis 2003.
Le 7 août, vous l'avez réactivé. Le 7 août 2020. Le 0-800-06-66-66. En septembre 2021, Olivier Véran annonce la mise en place d'un numéro vert de prévention du suicide. C'est le 3114. Le 14 avril 2020, numéro spécial professionnel de santé, un numéro vert pour qu'il se sente soutenu. Le 0805-23-23-36. Et alors, vraiment le pompon, c'est le numéro vert qui n'a jamais vu le jour, mais que vous aviez annoncé. Vous avez annoncé un numéro vert à venir pour les personnes âgées isolées face au coronavirus. Et j'ai cherché, je crois que là, il y a eu une annonce, mais il n'est jamais arrivé. Vous l'avez annoncé le 7 avril 2020, mais là, pour le coup, on peut toujours tenter d'appeler, il n'y a même pas de numéro.
Je vais vous dire un.
Vous avez dit, il y a un numéro vert à venir.
On va faire court. Un, il y a le bon numéro vert et le mauvais numéro vert.
J'avais pas compris.
Donc, ça veut dire qu'il y a des numéros verts qui sont importants. Celui de la prévention du suicide, par exemple, j'en suis très fier.
Bien sûr.
Et je vous invite à aller voir les associatifs, les bénévoles, des milliers d'appels par jour, et ça sauve des vies. Bon. Ensuite, pour vous faire la blague, j'avais ma chef de cabinet quand j'étais ministre de la Santé qui avait dans son bureau un tableau avec un arbre décisionnel en fonction des problèmes que pouvaient rencontrer les Français qui renvoyait vers des numéros verts. Ça veut dire que oui, il y a cette velléité parfois, mais c'est pas pour solde de tout compte. C'est en plus de dispositifs de plan, on va lancer un moyen de contact rapide, gratuit, pour trouver un professionnel ou avoir une réponse immédiate. Mais ça ne peut pas être pour solde de tout compte. Et effectivement, probablement que le réflexe du numéro vert, on est parfois raillé pour ça, est un réflexe qu'il nous faut perdre.
Est-ce que c'est pas un peu gonflé quand même de la part d'Emmanuel Macron de critiquer son administration, les numéros verts, comme s'il n'y était pour rien?
Non mais le président de la République, il nous demande et il attend de nous, tous, et j'ai été ministre de la Santé en période de crise, et ça m'est arrivé plus qu'à mon tour, donc je ne cible absolument personne, et je suis solidaire de tous les collègues, mais il nous demande de façon générale, et il l'a dit d'ailleurs en Conseil des ministres cette semaine, de ne pas penser la moyenne, mais de nous mettre à hauteur d'homme. Et il dit, en fait, on ne peut pas penser les problèmes des Français en nous mettant dans le costume de ministre ou de responsable d'administration. On doit se penser les problèmes des Français en se mettant à la place des Français. Et donc, quand vous avez un boulanger qui, le matin, se lève paniqué en disant « je ne pourrai pas payer ma facture, je ne sais pas comment je vais terminer le mois », la réponse qu'on doit lui apporter, c'est « on est là, on vient vers vous, on vous accompagne et on vous écoute ». C'est la logique d'ailleurs de ce qui a été fait pendant la crise du Covid, où on a mis en place des solutions générales qui étaient simples et qui permettaient de protéger tous ceux qui en avaient besoin.
Sauf que le problème, c'est où est-ce que vous arrêtez la liste de tous ceux qui en ont besoin ?
Parce c'est une liste qui n'est pas infinie. L'État n'a pas vocation à prendre en charge tous les surcoûts liés à l'électricité, ni pour les entreprises, ni pour tout un chacun. Parce que si nous le faisions, nous entretiendrions cette boucle qui n'est pas vertueuse de hausse du coût de l'énergie, et ça entretiendrait l'inflation. C'est ça vraiment que les Français doivent comprendre. Si l'État disait,
mais vous sentez bien, ça va créer un
sentiment d'injustice. Les surcoûts, ça veut dire que les surcoûts vont
augmenter. La liste va s'arrêter à un moment. On a commencé rien que dans cette semaine, hein, par les boulangers. Depuis, il y a les restaurateurs qui hier ont eux aussi obtenu d'avoir accès à ces aides. Demain, il y aura sans doute les bouchers. On entendait aussi le cri des stations de ski qui disent on n'a plus de neige, on a besoin d'aide. Enfin, je veux dire, il va y avoir une infinie proportion de professionnels, et on les comprend bien parce que de leur point de vue, ils ont besoin d'aide. Où allez-vous fixer la limite ?
Mais d'abord, en ce qui nous concerne les TPE, c'est aux fournisseurs, aux producteurs d'énergie de faire le geste et de faire l'effort. L'État, il a pris sa part avec des boucliers, avec l'amortisseur, avec tous les dispositifs qu'on a mis en place en faisant du cas par cas. Et ça, c'est indispensable. Ensuite, on ne dit pas, je le redis, on ne peut pas dire aux Français, on va prendre en charge tous les surcoûts de l'énergie ou tous les surcoûts liés à l'inflation. Sinon, on l'entretiendrait, parce que quand c'est l'État qui paye, eh bien, les producteurs, les commerces peuvent continuer d'augmenter, et ça, tout ça majore l'inflation. Donc, il faut qu'on ait un mécanisme de régulation. On n'est pas dans le quoi qu'il en coûte, en l'occurrence. En revanche, on n'a pas
on
préservé.
Pas dans le quoi qu'il en coûte.
On n'est pas dans le quoi qu'il en coûte. On est dans l'aide adaptée au bon moment pour ceux qui en ont besoin.
Bah, c'est ça le quoi qu'il en coûte, non?
Non, on avait une aide qui était totale et générale pendant le quoi qu'il en coûte, pendant la crise Covid. Souvenez-vous, toute entreprise avait accès au chômage partiel. Toute entreprise avait accès à ce qu'on appelait les PGE pour leur éviter d'être en difficulté. Là, on aide celles et ceux qui en ont besoin. Et là, en l'occurrence, on parle des TPE, des très petites entreprises, des moins de 10 salariés, et pour la plupart d'ailleurs, un ou deux salariés, qui ne peuvent pas faire face à une hausse de milliers d'euros du coût de l'énergie dans leur facture.
Est-ce que vous êtes inquiet de la colère qui monte? Alors sur les retraites, on y vient dans un instant, mais les Gilets jaunes, par exemple, qui annoncent renaître de leurs cendres et appeler à des manifestations dans toute la France demain.
Vous savez ce qui a changé depuis la période des Gilets jaunes, profondément dans notre pays? Les impôts des Français, ils ont baissé. Ils ont baissé. Le travail paye mieux. Les classes moyennes ont été valorisées. Le SMIC, il a augmenté plus fortement que l'inflation au cours des dernières années.
Des Français, vous
la prime d'activité, ça a été une réalité aussi pour les gens qui avaient des petits revenus. On a augmenté les droits sociaux. On l'a bien vu pendant la crise Covid avec le modèle social. Je vous dis que la situation est profondément différente de celle que nous avions connue en 2018 lors de l'émergence du mouvement des Gilets jaunes. Et que les réponses aux problèmes qui étaient soulevés par une partie des Gilets jaunes, celles et ceux qui étaient en détresse, ces réponses, elles sont aujourd'hui mesurables. Puisque le travail paye mieux, que les impôts ont baissé. Et surtout, vous savez ce qui est la grande différence? Le chômage est en chute libre. Et donc les gens qui n'avaient pas accès à l'emploi, et qui vivaient de prestations sociales aujourd'hui, ils vivent de leur
jaunes,
travail.
C'était souvent des gens qui, justement, travaillaient, mais avaient le sentiment qu'en travaillant, ils ne s'en sortaient pas. Donc, c'était pas forcément lié à la question du chômage.
Il y avait du travail partiel à Pauline de Malherbe. Et la réponse que nous avons apportée à l'époque, et qui est toujours valable aujourd'hui, et que nous avons revalorisée à hauteur de l'inflation, c'est important.
Par exemple,
c'est la
prime d'activité. Les manifestations des Gilets jaunes, ça ne vous inquiète pas, visiblement, outre mesure. Est-ce que, en revanche, la mobilisation des organisations syndicales, des salariés contre les retraites, ça vous inquiète?
Mais ça ne m'inquiète pas. Si vous voulez, c'est pas parce qu'une réforme est impopulaire qu'il faut pas la faire. Et quand on est au pouvoir, lorsqu'on est en place, surtout lorsqu'on a averti, expliqué pourquoi on allait faire cette réforme, l'esprit de responsabilité, c'est de la faire. Et en l'occurrence, on est d'accord avec la plupart de ceux qui ne sont... Il y a une différence entre être en désaccord avec le diagnostic et en désaccord avec les solutions. Le diagnostic est partagé parce qu'il est factuel.
Elle n'est pas populaire, mais à vos yeux, elle est juste.
Apolline Malherbe,
c'est-à-dire, vous dites, c'est pas parce qu'elle n'est pas populaire qu'elle n'est pas juste.
Oui.
Mais le problème, c'est que le président lui-même, il considère qu'elle n'est pas juste. Et j'en veux pour preuve ce qu'il a déclaré, c'était en 2016. Il a dit le report de l'âge légal de la retraite, ce n'est pas juste. C'était Emmanuel Macron.
Les conditions ne sont pas les mêmes, Apolline de Malherbe, depuis 2016. Il s'est passé beaucoup de choses dans notre pays. Et notamment, vous avez toutes les prévisions et tous les modèles économiques qui montraient, il y a 6 ans, que le système était équilibré. Donc, pourquoi faire travailler les gens plus longtemps quand le système est à l'équilibre? Et qui, aujourd'hui, montre par A plus B. C'est pour ça que je vous parle
c'est
du diagnostic partagé.
Vous êtes d'accord sur la lecture de la conclusion du corps, hein?
Ben pardon, je sais que moins 10 milliards, c'est moins 10 milliards. C'est
le
pas
corps,
plus.
C'est cet organisme comité d'orientation des retraites oui. qui, finalement, il y a deux ans, disait que cette année, nous ne serions pas à l'équilibre, et finalement, on l'est.
Non, il y a cette année, et il y a l'année prochaine,
bien sûr, bien
10
sûr,
ans,
bien
15
sûr.
Ans, 20 ans. Pour nous, le sujet, il est.
Là, je dis juste que le corps lui-même a évolué dans ses propres pronostics.
On a des enfants. On veut qu'ils puissent travailler et avoir de l'emploi dans notre pays. Donc on ne veut pas charger le coût du travail pour qu'ils puissent bénéficier demain d'emploi, d'accord, à l'issue d'une bonne formation. Et on veut qu'à l'issue d'une carrière de travail, ils puissent accéder à un système des retraites. Un système de retraite juste. Bon. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que si on ne réforme pas le système des retraites, il y a des risques qu'il ne l'ait pas dans 10, dans 20, dans 30, dans 40 ans, parce que le déséquilibre financier serait trop important. Ça veut dire qu'il nous faut aujourd'hui, en responsabilité, préparer le système de retraite des Français de demain. Ça veut dire équilibrer les recettes et les dépenses. Et c'est là-dessus, tout le monde est d'accord. Là où il y a un désaccord, c'est qu'il y a des partenaires sociaux qui disent il vaut mieux augmenter les impôts, c'est-à-dire augmenter les cotisations. Et nous disons, on n'augmentera pas les impôts des Français, et on l'assume. D'autres disent, il vaut mieux baisser les pensions des retraités. Et nous disons, on a déjà modulé à la baisse les pensions des retraités dans le mandat précédent,
on ne le fera pas. Des retraités quand même.
Vous savez, factuellement, c'est ou vous augmentez les recettes ou vous baissez les dépenses. Certains vous disent, il suffit d'augmenter la fiscalité du travail, c'est-à-dire augmenter les impôts des entreprises. Si nous faisons cela, c'est la mort lente de notre économie. Ça veut dire qu'on va opposer les retraités aux travailleurs, puisqu'on va créer du chômage si on augmente le coût du travail. Et donc, c'est ce qui coûtera plus cher à notre modèle social. Reste donc la dernière alternative, qui est de dire, il faut être capable de travailler un peu plus longtemps. Et on ne dit pas, on va le faire de façon aveugle. On va demander une juste répartition de l'effort. C'est-à-dire que si vous commencez à travailler tôt, vous partez plus tôt. Si vous avez un métier qui est difficile, vous partez plus tôt. Vous partez plus tôt. Et on ne va pas vous demander de travailler davantage d'années au long de votre vie professionnelle. On recule l'âge de départ à la retraite. Ce qui veut dire que pour une partie des Français qui déjà travaillent au-delà de l'âge légal, ça ne changera pas foncièrement la donne.
Ce sera 64 ans.
Ce sera 64 ou 65 ans.
Bon, on a compris que 65, c'était comme une négo, quoi. Vous avez mis le plus pour pouvoir baisser et avoir l'air d'avoir fait...
Je vais être clair avec vous. Tant que l'arbitrage n'a pas été annoncé par la Première Ministre, et ce sera le cas le 10 janvier, je me garderai bien de faire un pronostic et encore moins de
Il est vraisemblable que ce soit 64 ans.
Ce sera un système qui, de toute façon, nous permet d'atteindre l'équilibre. Pour qu'on n'ait pas besoin d'y revenir, en fait.
Vous savez quoi, vous n'auriez pas dû vous donner autant de mal. Vous auriez simplement dû aller voir Gérard Larcher, lui dire, tu sais quoi, donne-nous la feuille que vous avez signée, vous, la droite, au Sénat depuis 4 ans. On signe, ça passe. Il avait tout préparé et c'est ce qu'il a expliqué hier.
Passage progressif de 62 à 64 ans, une attention particulière aux petites retraites, une attention particulière aux carrières longues.
C'est à prendre ou à laisser.
C'est autour de ça peut se faire un accord qui n'est pas qu'un accord politique.
S'ils reprennent la feuille que vous-même vous signez et vous votez chaque année en l'état tel que vous venez de nous la décrire, évidemment vous direz oui. Mais
naturellement, parce que nous sommes logiques avec nous-mêmes, nous pensons que c'est l'intérêt du pays.
Finalement, vous arrivez à peu près au même projet qu'ils ont présenté depuis des années au Sénat.
On y ajoute quelques éléments importants.
Lesquels?
La fin des régimes spéciaux. Je pense que c'est important, c'est juste. Et un plan d'emploi pour les seniors. Et c'est important et c'est juste. Ce que dit Gérard Larcher, c'est que les électeurs de droite attendent une réforme des retraites depuis un certain nombre d'années, et dans les enquêtes d'opinion, ils y sont favorables. Ce que dit Gérard Larcher, c'est que des parlementaires au Sénat LR vote depuis chaque année, depuis quelques années, vous l'avez dit vous-même, une réforme qui ressemble assez à la réforme, à l'une des réformes que nous pourrions proposer.
J'ai compris à demi-mot que c'était bien celle-là, quand même.
Vous aurez compris aussi, vous aurez noté aussi qu'il y a la droite au Sénat et la droite à l'Assemblée nationale, et qu'il nous faut travailler pour mettre d'accord les deux droites aussi, pour pouvoir trouver les conditions d'une majorité.
Vous trouveriez incohérent que ce que dit Gérard Larcher au Sénat ne soit pas le même discours du côté des députés à l'Assemblée?
Moi, je n'ai pas à juger de la cohérence des membres des oppositions, ça les regarde, et je ne porte pas de jugement de valeur. On n'est pas du tout dans une démarche va-t'en guériste ou de défi, on est plutôt dans une démarche de recherche de consensus, pour être capable, dans un climat politique le plus apaisé possible, d'adopter une réforme responsable, attendue par une partie de l'électorat conjoint de la majorité et de la droite, portée par les élus de la droite et de la majorité depuis un certain nombre d'années, qui, je l'ai dit, a beau être impopulaire, n'en est pas moins nécessaire.
Donc vous pourriez en tout cas vous mettre d'accord là-dessus. Olivier Véran,
en tout cas, on va le chercher, nous l'espérons.
Vous êtes médecin, Olivier Véran, vous avez été ministre de la Santé. Est-ce que l'augmentation du prix de la consultation vous paraît être un combat, le combat de vos confrères médecins, là, hors politique, vous paraît être un combat juste?
D'abord, je suivrai avec beaucoup d'attention l'intervention du président de la République ce matin.
Qui va présenter ses voeux au personnel de la Santé.
J'ai une conviction, c'est que le président, il va faire un discours, il va prononcer un discours qui va faire date. Parce que notre système de santé a besoin de réformes profondes, structurelles, en ville et à l'hôpital. Réformes qui n'ont pas pu être toutes conduites pendant la période du Covid, même s'il y en a eu, et des transformations importantes, du fait même du Covid, et qu'on ne transforme pas un système pendant qu'il a la tête sous l'eau. Moi, j'ai ma conviction, c'est qu'il faut que le système de santé soit un système dans lequel le fait d'exercer des contraintes, le fait d'exercer en contrainte, paye mieux que le fait d'exercer avec moins de contraintes. C'est un principe finalement assez simple, mais qui n'est pas toujours observé. Par exemple, la permanence des soins. C'est-à-dire garantir au sein d'un collectif, dans un territoire donné, que lorsque vous avez besoin d'un médecin...
Ça veut dire que vous préparez l'idée que s'il s'engage, par exemple, à avoir des gardes plus accessibles ou ce genre de choses, là, il y aura alors une rémunération plus élevée.
Je ne vous ferai aucune annonce, parce que je les ignore.
En tout cas, vous estimez que ça vous donne ma conviction,
tout en ayant un peu, pardonnez-moi, de pudeur, puisque je ne suis plus en service et que c'est toujours assez pénible, en fait, pour un ministre en charge, d'entendre le collègue d'avant qui donne tous ses conseils et comment il fait.
Mais en gros, vous seriez pour une idée un peu de donnant-donnant.
Dans les grands concepts, faire équilibrer les contraintes entre la ville et l'hôpital et faire en sorte que travailler dans un milieu plus contraint fasse mieux gagner sa vie que travailler avec un peu moins de contraintes.
Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, merci d'être venu dans ce studio. Merci d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.